dimanche, RVE, il est 9h.
Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. On a toujours autant de plaisir à vous retrouver hein, tous les dimanches matins. Émission bien remplie ce matin, 9h, 10h, Tribune Sport, où on retrouvera les pronostics hippiques de notre ami Jean-Claude. Hein, on reprend les bonnes habitudes de sol hippodrome de Rambouillet. On va parler basket également avec quelqu'un qu'on est ravi d'accueillir dans nos studios. C'est monsieur Jean-Marc Jeannot, président donc du comité départemental de basket et vice-président de la Fédération française. On aime recevoir des présidents de comités départementaux. On l'a fait pour beaucoup de sports. On l'a fait pour le judo. On l'a fait pour la pelote basque. On l'a fait pour le cyclisme. On l'a fait pour le ski nautique. Et même pour la pétanque. On est ravi donc ce matin de le faire pour le basket. Monsieur Jeannot, bonjour.
Bonjour, je suis ravi aussi d'être ici.
Le basket, ça fait combien de temps pour vous?
Ça fait très très longtemps, puisque ça fait maintenant une trentaine d'années que je suis président du comité départemental des Yvelines. Mm-hmm. Et 15-16 ans que je suis membre du bureau de la Fédération française de basket. Donc c'est une longue.
Ouais, vous avez histoire. Dû en voir hein, des choses. Hein.
Ah, j'en ai vu pas mal, oui, c'est sûr. Puis en plus, j'étais quand même avant aussi basketteur, bien sûr, puisque c'est par le fait, c'est mes parents qui m'ont mis le petit doigt dans l'engrenage, et c'est toujours comme ça que ça se passe. Et puis quand on met le petit doigt, ben on se fait rapidement manger complètement pour finalement se retrouver à passer tout son temps au basket.
Ouais, et vous l'avez vécu où cette vie de pratiquant de basket?
J'ai commencé à Versailles.
Oui, bah, ville de basket.
Il y avait deux clubs à l'époque à Versailles. Il y avait l'Entente Sportive Versailles et le Racing Club de Versailles. Et donc je suis resté assez longtemps à Versailles. Et ensuite je suis parti en tant qu'entraîneur pour entraîner des équipes, essentiellement des équipes de jeunes d'ailleurs, à Chatou, je suis allé après à Poissy, et puis je suis revenu sur le Chênay, où là finalement après j'ai arrêté, parce que avec les fonctions qui étaient les fonctions que j'avais en tant que dirigeant, ben j'avais plus tellement le temps le week-end de m'occuper des équipes de jeunes, quoi.
Très bien, donc on parlera de tout ce qui se passe sur le basket dans notre département, et puis même sur un plan national, et puis on retrouvera ensuite Tribune Foot à partir de 10h, ça sera un spécial Paris Saint-Germain. Alors on aura Juliette Rouvel, on aura Jean-Loup Leplat que vous connaissez bien, hein, oui. Qui viendra aussi nous parler du PSG. Et puis, on aura Gérard Lescour, qui est l'ancien délégué général du Paris Saint-Germain auprès de Francis Borrelli, journaliste, hein, qui interviendra au cours de cette émission. Vous voyez, et puis, on a tout plein d'annonces à vous faire. Donc, il y a un dimanche bien rempli et bien chargé. Allez, la pub, la musique, et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec ce dimanche chargé au niveau de l'actualité sportive. Oui, avec une actualité sportive bien remplie hein, ce matin. On va d'abord vous rappeler depuis 8h45, donc, se sont élancés les 37 000 concurrents qui participent donc au marathon de Paris. Et en plus, ça tombe bien parce que demain, c'est le passage donc de la flamme olympique dans les rues de la capitale entre la Tour Eiffel et Charletti, que vous devez très bien connaître, monsieur Jeannot, probablement.
Oui, bien sûr.
Ensuite, on va annoncer également un trail. Aujourd'hui, c'est le 6e trail de la vallée de Chevreuse. Hein. C'est un énorme événement dans la région. Alors, les premiers concurrents sont partis à 7h pour accomplir 19 km et puis à 9h30 s'élanceront le plus gros de la troupe hein, pour un périple de 53 km. Et puis il y a aussi un beau week-end de motocross du côté de Saint-Chéron, c'est dans l'Essonne, c'est tout près de Dourdan, hein. Il y aura des manches du championnat de France de motocross. Alors il y aura notamment une épreuve du championnat de France junior sur 125 cm3. Il y aura les trophées de la ville de Saint-Chéron, il y aura les trophées Yamaha Essonne Moto, et il y aura les championnats de ligue Île-de-France Espoir sur 85 centimètres cubes. L'entrée est à 12 euros, il y a des tarifs réduits à 8 euros et c'est gratuit donc pour les moins de 12 ans. Et puis notre ami Jean de Hédin de Rambouillet Olympique nous a fait parvenir une petite affiche pour une collecte de livres qui aura lieu donc le mardi 29 avril de 10h à 16h. C'est à la salle de la guirlande de Julie, donc en face de l'hôtel de ville, et c'est donc une collecte qui sera réalisée avec le concours de la ville de Rambouillet, du comité départemental des Yvelines, des médaillés de la jeunesse et des sports, du comité départemental olympique et sportif des Yvelines et d'Yvelines Information Jeunesse et du Panathlon International, et ça sera naturellement au profit donc des pays d'Afrique francophone. Et puis on va avoir les pronostics avec notre ami Jean-Claude. Est-ce que notre ami Jean-Claude est prêt? Oui.
Oui.
Alors, on a notre ami Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour, Philippe.
Comment ça va, Jean-Claude ?
Ça va très bien. Je suis content de te retrouver là, oui, pour cette nouvelle année hippique sur l'hippodrome de la Villeneuve à Rambouillet. C'est la réouverture aujourd'hui.
Alors, justement, Jean-Claude, hein, la semaine dernière, on a été obligé de... On s'est simplement contenté hein, de donner donc les dates hein, de oui, la réunion, puisqu'on a rendu, malheureusement, bien, hommage à notre ami Thierry Gilardi, décédé. Hein, et oui, on voulait encore avoir une pensée pour lui ce matin, puisque... Bien. Plus d'un millier de personnes l'ont amené et l'ont accompagné à sa dernière demeure lundi du côté de Montfort-l'Amaury. Donc on va rentrer un peu plus aujourd'hui dans le détail de ce qui nous attend pour cette année de 2008 en matière de course sur Rambouillet.
Voilà, alors donc on attaque la première, hein, on oui, attaque par une très belle réunion aujourd'hui. On a toujours 9 réunions par an à Rambouillet. Mm-hmm. On a donc la première qui est aujourd'hui le 6 avril. Et la prochaine qui sera le 20 avril. Hein.
Mmh. D'accord.
Donc,
alors,
dès maintenant, 6 et 20 avril. Alors, Rambouillet est en train de prendre beaucoup voilà, d'essor au niveau hippique. Depuis une dizaine d'années, grâce au président Philippe Poisson et avec, à M. Poisson avec tout son comité, eh bien, ma foi, l'hippodrome a bien changé. Hein. Les tribunes maintenant sont neuves, le hall est neuf, la salle des balances est neuve également. On a vraiment un hippodrome qui prend beaucoup de valeur, ce qui fait que les sociétés mères à Paris, la Société du Cheval Français, donnent de plus en plus, disons, d'ampleur à cet hippodrome. Cette année, on a deux courses PMU mm-hmm, au lieu d'une, et on a le trophée vert. D'habitude, un hippodrome en province a soit le trophée vert, soit une course PMU. Eh bien, cette année, le président Poisson a réussi à avoir deux courses PMU et le trophée vert au mois de juin. Vous voyez, ça c'est... Tu vois, Philippe, c'est très très important. Oui. Ça veut dire que tout se passe au mieux, en fait, à Rambouillet.
Ouais, c'est une reconnaissance, finalement, pour oui, l'hippodrome. Hein.
Ça, c'est une belle reconnaissance, hein, parce qu'on commence par une très belle course PMU aujourd'hui, mm-hmm, donc où toute la France peut jouer dans les points PMU, où bien sûr à Rambouillet se rendre sur l'hippodrome, hein, et c'est très important. Puis au mois de juin, il y aura bien sûr le trophée vert avec beaucoup, beaucoup d'animation. Oui. Le président Poisson fait beaucoup pour les enfants, mm-hmm, toute l'année, hein, ça c'est très important. Les auditeurs, écoutez bien, toute l'année, il y a des animations gratuites pour les enfants, toute l'année. Il y a des poneys, il y a des structures gonflables, ateliers de maquillage, petits sulky, et ça, c'est vraiment, ça permet aux parents de venir passer un après-midi très, très agréable avec leurs enfants sur l'hippodrome de la Villeneuve. Hein. Ça sera pour toute l'année, ça c'est important.
Oui, et puis des infrastructures, Jean-Claude, très confortables hein, maintenant. Hein.
Ah, mais maintenant c'est super. Hein. Mm-hmm. Tout est couvert, enfin il n'y a plus de problème, même si le temps n'était pas de la partie. Tout est couvert, le hall, le bar, le jeu, le PMU, enfin tout, on peut même déjeuner. On déjeune bien sûr à l'intérieur, les tribunes sont impeccables. On peut jouer maintenant, enfin depuis les dernières aussi, sur les réunions de Paris ou ailleurs, la réunion PMU, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est Longchamp, et donc Rambouillet, on joue sur les 9 courses de Rambouillet, mais on joue également sur Longchamp, et on joue également sur une réunion en province à Agen. C'est-à-dire que les turfistes, mm-hmm, eux, ont tout ce qu'il faut pour venir passer à l'après-midi agréable. Ils vont rien manquer, ils ont tout, la télévision est là, il y a tout, les courses sont télévisées grâce à Equidia, et ils peuvent jouer. Et puis les familles de la région, eh bien, vont venir passer, comme d'habitude, un moment très agréable à la Villeneuve.
On peut gagner beaucoup à l'hippodrome, Jean-Claude, on joue
Pardon
beaucoup. On joue beaucoup sur à Rambouillet, on peut gagner beaucoup.
On peut gagner beaucoup, on joue, oui, c'est pas des gros jeux comme à Paris, par exemple, mm-hmm, hein, mm-hmm, mais on joue quand même dans un après-midi sur l'hippodrome, on peut jouer 50 000, 60 000 euros.
D'accord.
Hein, dans mm-hmm, l'après-midi. Alors la mise minimum est de 2 euros. Il y a des écrans de télévision, c'est très bien fait pour les gens qui viennent pour la première fois, où il y a les codes des chevaux qui sont affichés. On sait, par exemple, que si vous jouez un cheval, c'est marqué 10, et bien vous avez touché 10 fois la mise.
Mmh, mmh.
Vous voyez, c'est un moment très agréable, je crois qu'on peut passer sur l'hippodrome avec les enfants.
Alors, en plus, il y aura le golf très bientôt, à côté. Hein.
Alors, le golf, il est pratiquement prêt, d'après mmh, ce que j'ai compris. Mais le cadre est très plaisant, en oui, hein. On a la forêt en face, on aura le golf au milieu. C'est vraiment un cadre très plaisant. Et aujourd'hui, il y a la foire au vin.
Oui.
Hein, sur l'hippodrome, qui devrait amener beaucoup de monde.
Mmh, ouais. Oui.
Alors, pour les courses, on a 140 chevaux, donc beaucoup, beaucoup de partants encore. On a 9 courses au programme de 14h à 18h.
D'accord.
Hein, donc, n'arrivez pas trop tard, mais c'est pas grave si vous en manquez une, hein, il vous en restera encore 7 ou 8. Il y a de quoi passer un très bon moment avec les enfants, donc il faut bien noter qu'à chaque fois, les enfants seront gâtés sur l'hippodrome. Hein.
Alors, les pronostics.
Voilà, Philippe. Alors, on va attaquer par les pronostics. La première course, donc, le 8, Caléo du Chef, le 4, Queen Emang, le 5, Quick Pride. La deuxième course, le 10, Québécois, le 4, Casar de Cassis, le 13, Quentin Dubisson. La troisième épreuve, le 2, Récital d'Ulysse, le 4, Revenu de Loin, le 5, Readers. La quatrième course, le 10, Pacifique Sud, le 5, Petite Floride, le 15, Poento Fedo. Dans la cinquième course, le 4, Kizara, le 12, Kenta Por Favor, et le 8, Queen Westre. Dans la sixième, le 5, Querelle Dupont. Le 12, Kelbaraka. Et le 13, Kenyatta. Alors dans la septième, c'est le Grand Prix de la ville de Rambouillet. C'est donc la course PMU, la course PMU nationale, où les gens vont pouvoir jouer aussi bien à Marseille qu'à Bordeaux qu'à Lille sur cette épreuve. Donc ça fait quand même un plus pour la ville de Rambouillet. La ville, c'est une très bonne publicité au niveau bien sûr local. Et là, ça nous donne un bon impact national. Hein. Voici les pronostics donc pour cette course PMU. Le 14, Overtrick. Le 17, L'As de Seuilly. Le 18, Mage du Bourg. Le 2, Ouest du Vivier. Et le 8, Olga de Vauvert. 14, 17, 18, 2 et 8 pour ce Grand Prix de la ville, une course PMU. Dans la 8e, 3 et 12. Réa Pride et Rami Monochrome. Et dans la 9e, 6, Mercure de Corberie. 9 Marathon Villiers et 12 où va-t-il Viking.
Très bien,
voilà,
Jean.
Philippe. Alors je vais terminer comme les dernières par le quintet de Longchamp.
Oui, bien sûr.
Hein, je vous donne un quintet en 6 chevaux. Voilà les informations qu'on a. Le 1, le 7, le 3, le 10, le 12 et le 11. As, 7, 3, 10, 12 et 11. Je vous rappelle tous les jours sur le 08 99 70 73 00 08 99 70 73 00 toutes les informations hippiques.
Très bien, Jean-Claude. Alors on va pouvoir écouter un peu les prévisions météo hein, de nos amis de météo de Trappes, hein, Météo France à Trappes, à travers donc cette petite bande d'interview faite hier par notre ami Jean-Marc.
Michael, bonjour.
Bonjour Jean-Marc.
Alors que nous réserve la météo pour ce week-end ?
Pour dimanche, l'ambiance va être quasi hivernale sur les Yvelines. Les températures ne vont guère décoller, 6 degrés de maxi seulement. Côté ciel, les nuages menaçants donnent de fréquentes averses de pluie, accompagnées de grésils, neige fondue, voire coups de tonnerre, surtout l'après-midi. Pour la nuit de dimanche à lundi, de petites chutes de neige blanchissent les sols. Les chaussées vont alors devenir glissantes en raison des températures voisines du 0 degré. Soyez donc prudents. Météo France, vous êtes à tous une bonne journée.
Bon, j'avais rangé les moon boots et les anoraks, mais je crois que... Il va falloir ressortir tout ça.
Jusqu'à mardi, mercredi. Hein.
D'accord, et le printemps va arriver tranquillement, quoi, après.
Lentement, enfin, c'est plutôt une lente remontée des températures qu'on attend après, mais on va quand même rester sous un régime perturbé océanique, donc doux et humide après.
Bon, bah très bien, on prendra un bon livre ou un bon CD.
Et
parapluie. Et puis on pourra aussi rester auprès de la cheminée. Merci, voilà. Michael, bonne journée et merci encore
bon
une fois à toute l'équipe de Météo France.
Il n'y a pas de problème.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Voilà, merci à Jean-Marc et à Michael de Météo France. Jean-Claude, ça peut avoir des conséquences sur les courses d'aujourd'hui ?
Tout ça n'est pas très réjouissant, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais.
Bon, ce qui est très intéressant pour le spectateur, c'est qu'il est à l'abri, hein, donc il n'a pas de soucis, lui, le spectateur. Par contre, c'est pour les professionnels et la piste. Bon, ben, ma foi, moins il y a de précipitations, mieux ça vaut, hein, parce qu'on est en début d'année quand même, il a plu pas mal hein, depuis un certain temps. Ce qui fait que le terrain peut être collant, quoi. Hein. Ce qui peut changer, ben, ma foi, les arrivées.
Très bien, donc il faudra faire avec la météo hein, pour les pronostics aujourd'hui, Jean-Claude.
Je pense que le temps, c'est très important. Il y a des chevaux qui vont mieux sur un terrain qui est bon, sur un terrain qui est sec, ou sur un terrain qui est collant, quoi. Hein. Et aujourd'hui, je crois qu'on aura un terrain collant. sur l'hippodrome. Voilà.
Très bien, merci. On se retrouve donc, alors je vais rappeler les dates, hein. Le dimanche 20 avril, ça sera donc dans 15 jours.
La prochaine, c'est donc le dimanche 20 avril.
Mmh. Ensuite, il y aura naturellement la réunion du 8 mai, la grande réunion du 8 mai, hein, ça sera jeudi, donc le jeudi 8 mai. Ensuite, la quatrième donc réunion, ça sera le dimanche 25 mai. Je pense qu'on fera un gros effort pour les mamans, ça sera la fête des mamans ce jour-là.
Bon, c'est parfait.
Hein. Ensuite, ça sera le dimanche 8 juin avec le prix RVE.
Ouais.
Ensuite, le dimanche 22 juin, là, ça sera effectivement, on l'a dit, le trophée vert.
La grande journée du trophée vert, oui. Mm-hmm.
Et puis, on partira en vacances et on se retrouvera à la rentrée pour deux réunions donc successives, hein, les 7 septembre et 14 septembre.
Oui.
Et puis, le dernier dimanche, donc le 5 octobre, qui sera en même temps que le prix de l'Arc de Triomphe.
Voilà, voilà, comme tous les ans.
Voilà, c'est ça. C'est une habitude. Voilà pour avoir donc ces dates. Merci Jean-Claude.
Merci
et puis,
à
dans 15 jours.
Voilà, bonne journée à tous,
voilà.
Au revoir.
Salut, et bonne journée donc à l'hippodrome de Rambouillet. Vous voyez, il se passe beaucoup, beaucoup de choses ce dimanche, monsieur Géano, entre donc le motocross sur Saint-Chéron, la réunion donc hippique sur Rambouillet, hein, c'est la rentrée, et puis le trail de Fargis, sans oublier le marathon de Paris actuellement, énormément donc d'événements sportifs, mais c'est pas nous qui allons nous en plaindre. Alors pour le basket, vous avez une chance énorme, c'est que la météo...
la météo joue pas, pas beaucoup pour nous, pour le basket, puisque maintenant on joue de plus en plus en salle, bien sûr.
Bah,
il y a très peu de gens qui jouent. Alors, il y a toujours dans les, au fin fond de la Creuse, certainement, des gens qui jouent encore, peut-être, sur les terrains extérieurs. Mais on essaye de réhabiliter éventuellement des terrains extérieurs.
Des championnats à l'extérieur.
Ça peut exister encore. Dans certains endroits, et on aimerait pouvoir réhabiliter un peu les terrains extérieurs, parce que quand il fait beau, on est aussi bien à jouer dehors qu'à jouer en salle, donc bien sûr les niveaux supérieurs, eux, jouent toujours en salle, ce qui permet, puisqu'il y a quand même des contraintes financières importantes pour les clubs qui sont les clubs professionnels, il y a quand même un peu moins d'aléas quand on joue dans une salle que quand on joue dehors. Donc c'est quelque chose d'important.
Alors, dans les Yvelines, comment va votre sport? Est-ce qu'on peut considérer que tout va bien pour le basket dans les Yvelines?
On peut jamais dire que tout va bien, parce qu'il y a toujours des problèmes, bien sûr. Mais on peut dire que tout va pas trop mal, dans la mesure où on est quand même un sport bien représenté, avec 8700 licenciés sur le département. Donc c'est quand même fort important. C'est le deuxième sport au niveau, je dirais, collectif, sport collectif, sur le département.
D'accord.
Après le foot, bien sûr. On a quelques gros clubs, l'Entente Le Chêne et Versailles, par exemple, avec 500 licenciés. Le deuxième, c'est la jeunesse de Croissy-Château, qui tourne aussi à plus de 400 licenciés. Donc c'est vraiment des clubs très très importants. Rambouillet est bien situé aussi, puisque Rambouillet a 270 licenciés actuellement. Donc c'est un club qui tourne aussi bien et qui en plus a fait un choix de se diriger vers l'éducation des jeunes, puisqu'ils ont obtenu, ils ont obtenu le label École Française de Mini Basket dernièrement. C'est un de nos quatre clubs labellisés, ça a été le troisième dans l'ordre chronologique, et puis on a effectivement un nombre de licenciés qui nous place à la première place sur l'Île-de-France, des 8 départements de l'Île-de-France. Donc je dirais que les choses se passent plutôt bien. Bon, ce qui nous manque un peu, c'est peut-être une grande équipe. On avait apparemment Poissy qui joue en Pro B. Malheureusement, des soucis financiers les ont amenés à redescendre à des niveaux, à un niveau régional. C'est ça qui nous manque. Le plus haut niveau actuellement pour nous, c'est en garçon, la Nationale 2 avec le club de Trappes, qui est redescendu de NM1 l'an dernier. Et puis en féminine, c'est également la Nationale 2 féminine avec le club de Versailles. Par contre, on a quand même trois clubs en nationale masculine 3. Donc là, on a aussi une présence qui n'est pas importante, mais qui permet d'avoir quand même un nombre de quatre clubs en masculin en championnat de France. Ce qui permet aux jeunes de trouver une place lorsqu'ils ont vraiment le niveau pour jouer au niveau championnat de France.
Et puis, il manque peut-être aussi un très grand club francilien. Bon, il y a le PRB, le PBR qui joue à Levallois, mais un club qui draine quand même tout un enthousiasme.
Bien sûr qu'on a toujours eu beaucoup de difficultés à avoir des clubs parisien. Alors, c'est dû, bien sûr, à beaucoup de choses. C'est dû à la difficulté d'avoir des sponsors sur la région parisienne, parce que il est beaucoup plus difficile d'obtenir des sponsors en région parisienne qu'en province, pour des raisons qui sont évidentes. C'est que sur la région parisienne, il y a tous les sports. Donc, tout le monde attaque le même tissu économique. Et donc, le tissu économique n'étant pas extensible, eh bien, il faut partager. Et si on partage, ça veut dire que chacun a moins, quoi. Donc, ça, c'est une difficulté. Et puis, il n'y a pas l'engouement des spectateurs est aussi partagé entre tous les clubs. Donc on a des difficultés aussi un petit peu à remplir les salles. Quoi.
Ouais, et puis un jour on joue à Levallois, un autre on joue à Charletti.
Oui, ça a été, enfin pas à Charletti, il joue surtout à Coubertin.
À Coubertin, pardon.
Il joue à Coubertin,
Levallois.
Levallois, Coubertin. Et quelques matchs, ils avaient envisagé de faire quelques matchs à Bercy.
Ah ouais.
Mais le problème est que il fallait essayer de multiplier les possibilités aussi de subvention. Mmh. Et donc le fait d'avoir fait une fusion entre Levallois et le PBR est peut-être quelque chose qui permettra au club de s'en sortir. Mmh. Cette année ça va être très difficile puisque là ils ont encore perdu vendredi soir, que Dijon a gagné aussi, donc il faudrait qu'ils réussissent à mettre Gravelines derrière eux, mais ça va peut-être pas être facile parce qu'il reste peu de matchs et là les choses deviennent de plus en plus compliquées, quoi.
Alors le basket reste quand même le sport numéro un au niveau collectif chez les filles.
Chez les filles, oui, parce que c'est un sport qui est très bien adapté au milieu féminin. C'est un sport qui est un sport de non-contact, qui demande une grande maîtrise des mouvements, qui demande une maîtrise de la stabilité, qui demande vraiment une coordination de mouvements importante. Donc c'est très bien adapté pour les féminines. Malheureusement, sur l'Île-de-France, on constate qu'on est en dessous de la moyenne, du pourcentage, je dirais, de licenciés sur la France entière. Au niveau de la France entière, on tourne à 39-40% à peu près de licenciés féminines par rapport à l'ensemble des licenciés. Et sur l'Île-de-France, on est à 26-27%. Vous voyez qu'on en est assez loin. Ouais. Bon, on essaye de travailler là-dessus, sur le département. On réalise des opérations qui sont des opérations spécifiques pour les féminines. On va faire le 8 mai une journée du basket féminin.
D'accord.
Donc, qui sera spécifiquement féminine, qu'on fait tous les ans, de façon à essayer de montrer justement que le basket est un sport très adapté aux féminines. Mais on est quand même si au niveau de l'Île-de-France, on est le département qui a le meilleur taux et le meilleur pourcentage de licenciés féminines, on est quand même qu'à 28,6 ou 7% actuellement. Quoi.
Et pourquoi ? C'est parce qu'il y a d'autres sports qui montent, comme par exemple le hand chez les filles aussi.
C'est parce qu'il y a d'autres sports qui montent. Ouais. Il y a le hand qui monte, mais il n'y a pas que le hand, il y a le football qui monte en féminin, il y a même le rugby maintenant qui se développe vers les féminines. Il y a aussi beaucoup d'autres sports comme la gymnastique, tous ces sports qui sont des sports peut-être un peu plus individuels mais qui aussi sont très adaptés aux féminines et qui se développent aussi. Mm-hmm. Donc tout ça fait que les jeunes filles ont un peu plus de difficultés peut-être à pratiquer le basket. Il y a aussi le fait que l'image du basket a été pendant un moment où on a vraiment développé complètement le basket de rue, peut-être une image d'un sport un peu plus violent.
Alors justement, on allait en parler. Est-ce que le basket de rue, ça vous a amené des pratiquants et pratiquantes ? Ou alors est-ce que c'est un phénomène complètement différent ?
Je pense que c'est un phénomène qui est un peu à côté.
Ouais.
Parce qu'on appelle ça basket de rue, mais on avait aussi appelé ça, à une époque, basket en liberté.
Ouais.
Parce que les gens qui pratiquaient ce type de basket et qui le pratiquent encore, sont souvent des gens qui ne veulent pas rentrer dans le carcan de la réglementation, des clubs, toutes les contraintes qui sont liés en fait à la participation dans un club. Donc ces gens préfèrent être comme on dit, libre, et pratiquer à leur manière. Bon, ils aiment pas trop avoir des arbitres, ils s'arbitrent eux-mêmes, c'est un monde un petit peu à part. Alors, il est vrai que les meilleurs qui viennent du basket de rue sont des gens qui peuvent pratiquer après au niveau des clubs, et qui parfois sont attirés justement par la pratique professionnelle, et qui se dirigent vers les clubs professionnels au niveau essentiellement au départ des centres de formation, quoi.
Mm-hmm.
Mais il y a, alors, on a beaucoup dit que les meilleurs basketteurs étaient issus du basket des rues. C'est pas tout à fait vrai, parce que tous les meilleurs basketteurs qu'on cite sont des gens qui ont pratiqué le basket de rue, mais qui, dès qu'ils étaient jeunes et poussins, étaient dans les clubs. C'est-à-dire qu'ils pratiquaient les deux. Je crois que l'avantage de pratiquer les deux, c'est que ça donne un temps de pratique plus important.
Ouais.
Et c'est surtout ça qui est intéressant.
C'est le plus, quoi.
C'est le plus, qui fait qu'au lieu d'avoir 6 heures d'entraînement par semaine, eh ben, il complète avec une vingtaine d'heures sur les terrains extérieurs et en pratique avec un ballon dans les mains. Or, on sait bien que pour être meilleur, bah, il faut avoir un ballon dans les mains parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre par soi-même quand on pratique le basket. Il y a des choses qu'un entraîneur ne peut pas apprendre. On peut apprendre la base d'un geste, on peut pas apprendre la façon d'adapter le geste à la morphologie de chaque personne. Et ça, c'est les joueurs qui le découvrent par eux-mêmes. Et ça, ils le découvrent ben, en pratiquant, quoi. En ayant un ballon dans les mains et en jouant, quoi.
Alors, on parlait des événements de basket sur Paris. Il y a quand même chaque année les All-Star Games, hein, c'est l'événement phare hein, pour les amis de basket
trois,
en coin.
Il y a trois événements.
Il y a l'Harlem qu'on peut voir de temps en temps, un spectacle.
Oui,
c'est un beau spectacle, ça, quand même. Hein.
L'Harlem, c'est un spectacle qui est plus un spectacle de cirque qu'un spectacle de basket. Sachant, ils ont une dextérité qui est une excellente dextérité, mais ils ont aussi en général en face d'eux une équipe qui s'adapte considérablement à leur jeu et qui parfois baisse la tête pour que le ballon puisse passer. Hein. Ouais. Donc ça c'est peut-être plus le cirque. Par contre, on a maintenant trois événements basket importants qui se déroule à Bercy. Les journées des finales de Coupe de France, puisque maintenant c'est un week-end complet. Il y a la finale de Pro A Pro B, les finales Pro A Pro B, et puis le All-Star Game qui a lieu, lui, au niveau de la période de Noël, quoi.
Ouais, et ça attire beaucoup de monde, hein. Bercy, c'est comble. Hein.
Ces trois événements remplissent Bercy. Donc, c'est quand même quelque chose qui est une progression considérable par rapport au début. Il y a 15 ans, on nous disait surtout ne faites rien sur Paris parce que vous allez avoir 100 spectateurs. Et j'ai vécu, moi, un France-Italie à Coubertin pour lequel il y avait 200 spectateurs dans Coubertin, quoi. Donc, mais ça, c'était il y a 15 ans. Ça a quand même beaucoup changé. Et remplir trois fois Bercy, c'est quand même quelque chose qui montre que le basket est suivi par les gens et par les Parisiens et par les spectateurs en général.
Alors, ce qui est fou quand même, monsieur Jeannot, c'est que c'est le sport qui a gagné le plus de Coupes d'Europe, hommes et filles, au niveau des clubs. Il y a une équipe de France où on a des icônes. Malheureusement, il manque à chaque fois ce petit résultat. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que le basket a raté peut-être son virage médiatique après les Jeux de l'an 2000? Parce que c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que le rugby est pratiquement le sport numéro 2 au niveau médiatique, derrière le foot, alors qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, c'était le basket.
Oui, la particularité du basket, c'est qu'on est le seul sport collectif qui a un concurrent qui est un concurrent majeur au niveau des États-Unis. C'est-à-dire qu'en rugby, il n'existe pas la NBA. En hand, il n'existe pas la NBA. En volley, il n'existe pas la NBA.
Oui, mais ça peut attirer des jeunes, justement. Et la NBA, ça sert d'icône pour des jeunes.
La NBA sert effectivement d'icône, mais elle sert aussi d'icône pour, justement, les stations de télévision, pour tous ces gens-là. Vous pouvez constater que sur Canal, vous avez des matchs de NBA. Vous avez de la NBA partout. Parce que cette NBA envahit. Le basket au niveau européen est maintenant arrivé à un niveau qui est un niveau que je dirais pratiquement équivalent au niveau de la NBA, puisqu'on est en train maintenant d'inonder la NBA de joueurs européens. Auparavant, il y avait deux joueurs européens qui arrivaient à pénétrer la NBA. Maintenant, on a beaucoup de joueurs européens qui partent en NBA. On a beaucoup de joueurs français qui sont en NBA actuellement. C'était pas le cas auparavant. Mais la NBA a une force et une puissance qui est une puissance phénoménale commerciale.
Et pour vous, ça occulte le reste.
Ça occulte un petit peu le reste, effectivement. Et on a par exemple la NBA souhaite profondément s'implanter en Europe parce qu'elle a conscience que si elle ne le fait pas, c'est le basket européen risque peut-être de lui enlever un petit peu cette suprématie qu'elle a actuellement.
Mais il manque quand même une équipe de France peut-être un peu plus compétitive dans les grandes échéances. Et puis il manque, parce que nous on est de cette génération là, Limoges, Orthez, il manque peut-être une équipe capable d'aller gagner une coupe d'Europe pour le basket, quoi.
Là aussi les choses
on se rappelle ces grandes soirées de basket quand même avec Limoges.
Il y avait effectivement des soirées phénoménales. Le gros problème qu'on a actuellement est aussi un problème de budget et un problème de règlement européen. Je pense que vous avez entendu parler de ça. C'est comme pour le foot. C'est la même chose que pour les foot. C'est pas tellement l'arrêt Bosman, c'est le fait qu'en Italie, en Grèce, par exemple, un joueur de foot ou de basket ne paye pas. On ne paye pas de charges sociales pour lui et il ne paye pas d'impôts.
Ouais, c'est ça.
Alors, ça veut dire que un club qui est un club français qui veut recruter le même joueur, si il veut donner le même salaire aux joueurs, le club français, ça lui coûtera deux fois plus cher. Deux fois plus cher parce qu'il y aura 50% de plus de charges sociales et 50% de plus d'impôts sur le revenu. Donc, fatalement, ça veut dire que il vous faudrait une masse salariale double pour arriver à avoir des équipes compétitives par rapport à ces équipes-là. Et c'est pas simple, quand même. D'autant qu'en France, on a aussi des limitations. Les gens, je dirais que notre culture fait aussi que les gens comprendraient difficilement que des sportifs ne payent pas d'impôts, quoi. Alors qu'ils ont des salaires mirobolants. C'est, notre culture n'est pas du tout tourné vers ce genre de choses, quoi.
Et l'équipe de France, parce que quand on voit la passion suscitée par l'équipe de France de foot pour le rugby, je suis sûr que s'il y avait une équipe de France de basket qui était capable de jouer un titre de championne du monde ou championne d'Europe, il y aurait toute une passion derrière cette équipe.
Ben, c'est sûr. Il y a déjà une passion quand même derrière l'équipe, avec des joueurs un peu emblématiques comme Tony Parker, comme Boris Diaw. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas eu les résultats qu'on escomptait sur les derniers championnats d'Europe, là. Et on était à deux doigts, puisque on a été contre les Russes. On est à égalité à une minute de la fin, quoi. Mm-hmm. Et on perd de 3-4 points parce que on est obligé de courir après le score, et c'est tout. Mais les Russes sont champions quand même d'Europe. Et ils battent l'Espagne en Espagne. Donc ça veut dire qu'on a quand même un niveau qui est un niveau suffisant. Maintenant, il faut réussir à... On a une équipe qui est encore jeune, hein, puisque c'est des joueurs qui ont 24 ans, 25 ans. Donc on a une équipe qui est encore jeune. Bon, j'espère qu'elle va réussir quand même à obtenir un résultat pour les prochaines échéances.
Alors, est-ce que c'est toujours le sport numéro 2 chez les jeunes au niveau sport collectif? Parce que, justement, dans ces années 90, hein, 95, hein, lorsque on gagnait des Coupes d'Europe pour le basket, c'était le sport numéro 2 chez les jeunes. Ça l'est encore?
Au nombre de licenciés, je pense que ça l'est encore, parce que le rugby n'a pas une couverture du territoire français aussi importante que le basket. Il faut savoir qu'au niveau mondial, le basket est le sport numéro 1 au nombre de licenciés. Parce qu'il y a des pays qui pratiquent le basket et qui ne pratiquent pas le foot. Par exemple, on a la Chine, on a des pays qui sont des États-Unis qui pratiquent peu le foot. Donc, au niveau mondial, c'est toujours le sport numéro 1. Mais au niveau français, je pense qu'on est quand même toujours le sport numéro 2 au nombre de licenciés. Bon, alors... médiatiquement, ça, c'est une autre affaire, bien sûr.
Alors, est-ce que vous avez aussi un phénomène, vous, qui est le phénomène du basket des villages? Est-ce qu'il y a, comme pour le foot, comme pour le rugby, des ententes, des associations qui...
Voilà. Il existe des règlements...
qui permettent au basket de se pratiquer, même au plus profond de la France?
Il existe des règlements qui ont été mis en place il y a déjà maintenant une dizaine d'années, qui sont alors deux types de règlements. Un règlement qui permet à des clubs de s'entendre entre eux pour faire ce que l'on appelle une union. Mais là, est destiné non pas à permettre la pratique, même s'il y a peu de licenciés, mais qui est destiné à avoir un projet qui est un projet sport élite. Donc, par exemple, deux clubs peuvent s'unir, ou trois clubs peuvent s'unir, puisqu'on peut aller jusqu'à trois clubs peuvent s'unir pour monter une équipe, pour jouer un championnat de France de jeunes, par exemple, championnat de France minime ou cadet. Ça, c'est les unions qui sont signées pour 3 ans, il faut une certaine durée, et puis il faut aussi une certaine organisation, c'est-à-dire qu'on oblige à avoir un président, une structure, des conventions un peu plus élaborées. Et puis, on a des choses qui peuvent se faire sur une saison sportive, où là, plus, c'est pour permettre la pratique, c'est-à-dire si un club a 3 joueurs, le club à côté en a 5, ben, ils peuvent faire ce qu'on appelle une entente pour former une équipe qui pourra jouer un championnat, mais qui ne pourra jouer un championnat qu'à un niveau départemental et pas à un niveau national.
Est-ce que le problème dans votre sport, c'est pas aussi le problème des infrastructures? Il y a peut-être des petits villages comme le Perret, comme les Essarts, qui ont aussi des problèmes de salles, et ce qui explique qu'on est obligé de fusionner, quoi.
On a énormément de problèmes d'infrastructures, parce que on pourrait, moi je connais des clubs qui nous disent tous les ans, eh ben on arrête de prendre des licenciés parce qu'on n'a plus de créneaux, quoi. Les créneaux horaires sont tous complets, on fait des entraînements avec 30 gamins dans le gymnase, on est vraiment à la limite de ce qui est supportable, quoi. Donc des clubs comme Montigny-le-Bretonneux, tous les ans, arrêtent leurs engagements. Là, ils sont actuellement 340. Hein. Ils ont dépassé un petit peu ce qu'ils acceptaient les années précédentes, mais il y a des moment où on ne peut plus, quoi.
Ce sont avant tout des clubs formateurs, les clubs donc dans les Yvelines, où il y a aussi des clubs qui sont des pépinières, des grands clubs en français.
On a toujours des les clubs formateurs sont des clubs, c'est pas tous les clubs bien sûr. On a toujours quelques clubs qui sont des clubs formateurs. Alors il y a effectivement des, je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait sur au niveau fédéral un label École française de mini basket. On a quatre clubs qui ont obtenu le label française. Le label École française de mini basket. Donc le premier à l'obtenir a été Guyancourt, le deuxième a été Versailles, le troisième Rambouillet, le quatrième Maurepas. Et on a encore des clubs qui sont comme Sartrouville et Marly-le-Roi qui essayent de l'obtenir, qui sont en train de monter les dossiers. Bon, c'est quelque chose d'assez complexe à obtenir puisque c'est un label de qualité. Hein. C'est un label qui est un peu identique au label ISO 9000 en qualité. Mmh. Et il faut donc avoir des structures, il faut remplir des dossiers, il faut prouver que on est bien organisé selon ce qui permettra d'avoir la meilleure pratique et le meilleur enseignement du basket et le meilleur enseignement aussi bien sûr au niveau je dirais de l'éducation. Hein. Mm-hmm. Donc tout ça c'est des choses qui sont pas faciles à faire, mais une fois que c'est mis en place, bon, ça permet d'avoir une assurance de qualité pour la formation des jeunes basketteurs.
Alors on l'a dit, vous en avez vu des choses. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis plusieurs années dans votre sport? C'est devenu beaucoup plus même dans le jeu, c'est devenu beaucoup plus physique comme dans tous les sports. Ça s'est considérablement
C'est très différent au niveau des garçons et des filles.
Ouais.
Au niveau des garçons, effectivement, le basket est devenu beaucoup plus physique. C'est devenu maintenant, on va essayer de vous donner la balle à l'intérieur. Un joueur intérieur qui a la balle va essayer de jouer du 1 contre 1 presque systématiquement. Il y a d'ailleurs des règles au niveau de l'ULEB qui ont été modifiées de façon à ce que quand on est à 1 mètre de l'anneau, bien, je dirais tout le physique est utilisable et il n'y a pas de faute, même si on donne un grand coup d'épaule, même si on essaye de se faire sa place. Bon, tout ça, c'est effectivement pour aller vers le sport qui est le sport spectacle. Hein. Le problème est qu'il faut intéresser les gens, qu'il faut que les gens viennent dans les salles. Il faut avoir de plus en plus de salles qui ont une capacité importante parce que sinon on n'arrive pas à financer les clubs. Donc tout ça, c'est quelque chose qui fait qu'il faut du spectacle pour les remplir, ces salles. Hein. Mm-hmm. La NBA a des salles, le minimum de place d'une salle NBA, c'est 20 000 spectateurs. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont beaucoup de mal à s'installer en Europe, parce qu'il leur faut des salles de 20 ou 25 000 spectateurs pour pouvoir s'installer. Et il n'y a pas en Europe beaucoup de salles de 20 à 25 000. En France, on n'a pas de salles de 20 à 25 000 spectateurs pour l'instant. Ah oui. On aurait peut-être pu en avoir une si on avait eu les Jeux Olympiques,
ah oui.
Mais malheureusement, on n'aura pas cette salle, puisqu'elle n'est pas prévue dans les constructions.
Hein. Mm-hmm. Et il faut être grande ou basket ou
il ne faut pas être grand, non, c'est un peu une idée reçue.
Ouais,
non, ce que je dirais, c'est qu'il faut des grands.
Oui.
Dans une équipe de basket, mais il ne faut pas que des grands.
Ouais, hein. Ouais.
Par contre, il est vrai que maintenant, dans une équipe nationale, si vous n'avez pas des joueurs au-dessus de 2m10, vous n'avez aucune chance de gagner des rencontres. Quoi.
Mm-hmm.
Parce que le principe, c'est quand même que seule l'équipe qui a le ballon est capable de mettre des paniers.
Mm-hmm.
Hein. Or, c'est la seule chose qui compte, c'est de mettre des paniers.
Alors, on sait que ça pose problème dans certains hôtels. Hein.
Et ça pose problème dans certains hôtels. Il y a des hôtels qui s'adaptent, il y a des hôtels qui...
On n'a pas des lits suffisants.
Il y a des hôtels qui, malgré le fait qu'ils soient déjà adaptés et qu'ils aient des lits de 2 mètres, ajoutent encore au bout une petite table pour que les gens puissent sortir les pieds au bout et puissent passer des nuits correctes.
Les quarts de temps, c'est bien. Pour le basket, ça a changé. Avant, c'était des mi-temps.
Oui, mais ça aussi, c'est une évolution.
Qu'est-ce que ça a apporté de plus?
L'écartant, ben ça apporte déjà, je pense que ça a été fait beaucoup aussi pour des raisons qui sont des raisons publicitaires.
Pour passer les pubs. Hein,
parce que comme ça, ben on est sûr qu'on peut passer un peu de publicité au écartant. On va maintenant encore beaucoup plus loin. La FIBA a maintenant décidé que dans les championnats d'Europe et dans les championnats du monde, on aurait la possibilité de décréter des temps morts qui sont des temps morts télévision. C'est-à-dire que si, dans un quart-temps, au bout de 5 minutes, aucune équipe n'a pris de temps mort, à ce moment-là, c'est l'arbitre qui va dire « time out TV ». Et on va mettre un temps mort parce que bah, il faut passer la pub, il faut
ça
passer
va être
basket
des oreillettes bientôt.
Ça va être effectivement, on se dirige de plus en plus. Vers, je vous dis, on va vers le sport spectacle et vers tout ça.
Mais
il n'y a pas que à notre niveau. Il hein. n'y a pas que le basket. Je pense que tous les sports maintenant vont vers ce genre de choses.
Mais vous, au niveau amateur.
Alors, au niveau amateur, on n'en est pas là, bien sûr. Au niveau amateur, on essaye encore de jouer un basket qui est le basket, je dirais. Mais...
L'avantage aussi donc de votre sport, c'est que on voit beaucoup d'ambiance hein, dans les tribunes. Il y a un public qui est fidèle, très enthousiaste, et il y a peu de débordements sur le basket.
Il y a très peu de débordements sur le basket. On a un public effectivement fidèle quand on fait la journée, par exemple des finales de Coupe de France à Bercy. On a des clubs qui amènent 2000 personnes à Bercy. Ils peuvent très bien être à côté des 2000 supporters de l'équipe contre qui y joue, et en général, il n'y a pas de débordement. En France, il y a effectivement des fois des débordements dans d'autres pays,
c'est-à-dire
qu'en Grèce, par exemple, on a eu des fois
des pièces de monnaie.
C'est des pièces de monnaie, de monnaie qu'en plus ils ont aiguisées auparavant, de façon à ce qu'elles fassent un petit peu plus mal. Mais on a eu des soucis quand on a organisé des compétitions internationales, type Final Four qu'on avait organisé à Bercy. Mais là, bon, ça, les choses se gèrent quand même, il n'y a pas trop de difficultés. Je pense qu'on n'est pas un sport à débordement important.
Et vous, sur les Yvelines, vous n'avez pas eu à régler des cas de violence sur les terrains, par exemple?
On a toujours des cas de violence à régler, à la fois sur les terrains et dans l'environnement, parce que, bon, il y a des endroits où le gymnase est au milieu de cités sensibles, on est obligé de faire de la prévention, on est obligé de faire beaucoup de choses.
Ah, ça arrive quand même dans le basket, quoi.
Ça peut arriver dans le basket, comme ça arrive dans la vie courante, je dirais. Hein. Mais, bon, on essaye toujours, à ce moment-là, si on a des incidents qui sont des incidents qui se reproduisent sur une ville et sur un club, ben on prend rendez-vous avec la municipalité, puis on essaye de voir avec eux ce qu'il est possible de faire pour que les choses s'améliorent. On ne peut pas, et c'est pas notre rôle, de dire il y a eu 3 ou 4 incidents, donc on supprime le club, on le raye de la liste et il n'y a plus de basket dans cette ville. Au contraire, on a une mission qui est une mission pour que le basket puisse servir aussi à améliorer les choses et à faire de la prévention. Donc, il vaut mieux mettre en place des choses. Trappe a très bien réussi, d'ailleurs, dans ce domaine. Il y a eu un moment, il y a une dizaine d'années, où à Trappe, il y avait des soucis de ce type, et ils ont très très bien réagi, ils ont réglé les problèmes, ils ont fait venir les animateurs des maisons de quartier dans les tribunes quand il y a des matchs, ce qui fait que c'est plus les dirigeants du club qui règlent les problèmes dans les tribunes, mais les animateurs qui, eux, connaissent bien les jeunes et savent effectivement ce qu'il faut faire. Quoi.
Et alors, donc, si certains sont intéressés ce matin par venir rejoindre vos clubs, il y a un site internet, je crois, où
on peut... Oui, il y a un site internet où on peut avoir tout. Et le site internet, c'est www.basketyveline qui se touche. Hein, il y a un basket Yveline avec un S, bien sûr, .com.
Les prix des cotisations sont raisonnables dans les clubs
Le prix des cotisations, je pense que c'est tout à fait raisonnable dans la mesure où ça dépend un petit peu des clubs. Il y a des clubs qui ont des entraîneurs qui sont des entraîneurs qualifiés. Donc fatalement, s'ils ont une dizaine d'entraîneurs qualifiés, il faut payer ces entraîneurs et les cotisations sont un peu plus élevées. Mais l'important, c'est d'avoir une grande qualité au niveau de la pratique du basket. Donc ça peut aller de 20-30 euros à une centaine d'euros, quoi, à peu près.
D'accord. L'arbitrage dans le basket, est-ce que c'est le même problème que dans les autres sports collectifs? Est-ce que c'est difficile d'être arbitre dans un sport comme le basket?
Il n'est pas difficile d'être arbitre. Le problème, c'est qu'on n'en a pas assez. C'est pas que c'est difficile, c'est qu'on n'a pas assez de candidats.
Vous avez le même problème.
C'est pas la difficulté. Mais on a tout à fait le même problème que tout le monde. Et d'ailleurs, on se retrouve avec les autres sports dans la journée de l'arbitrage, qui est la journée de l'arbitrage but et la poste maintenant, puisque la poste Poste s'est aussi impliqué dans l'opération. Ouais. Et bon, on essaye de résoudre le problème. On a mis sur pied ce qu'on appelle des validations d'expérience, c'est-à-dire qu'on a maintenant la possibilité, lorsqu'on a été un joueur de national, de devenir arbitre simplement par validation d'expérience, c'est-à-dire on va être supervisé par un arbitre formateur, et si les choses se passent bien, on est nommé arbitre sans avoir besoin de passer par le grade le plus bas, puis le départemental, puis le régional, puis le... Donc c'est des choses qui permettent d'aller un peu plus vite dans la formation et dans la pratique, sachant que ces gens qui ont pratiqué pendant 10-15 ans au niveau national en tant que joueur, un, ils connaissent les règlements, deux, ils ont aussi un énorme avantage, c'est qu'ils ont aussi une vision qui en général est une vision beaucoup plus adaptée à la forme du jeu.
Hein. Donc il y a deux arbitres par terrain.
Alors ça dépend, si on est en Pro A au plus haut niveau, on en a trois maintenant.
Trois maintenant.
Voilà, on est passé à trois.
L'avantage c'est quoi? Ça fait pas aller un arbitrage à trois vitesses.
Faut qu'il y en ait trois dans certaines divisions et deux dans d'autres.
Ouais.
On part du principe que la Fédération Internationale est passée à 3, donc les clubs qui jouent en Pro A sont des clubs qui jouent aussi les Coupes d'Europe, et que donc il faut pas qu'ils aient des conditions qui sont des conditions différentes quand ils jouent le championnat national et quand ils jouent les Coupes d'Europe. Donc on est passé aussi à 3. Quel l'intérêt des 3, c'est que il y a plusieurs intérêts. C'est que je dirais on a une meilleure vision effectivement à 3, parce qu'on peut se partager le terrain d'une façon meilleure. Et puis ça permet aussi un petit peu aux arbitres d'officier un peu plus tard dans leur carrière, puisque à 3 on court un peu moins aussi.
On peut être arbitre jusqu'à quel âge?
Il n'y a pas d'âge vraiment indiqué. On a des arbitres qui ont 45-50 ans, sans souci.
Et peu de problèmes au niveau de leur sécurité. Ils essaient quelques colibets comme tout le monde.
Bien sûr, il y a toujours mais ça c'est... Je dirais que c'est courant et dans tous les sports, mais on n'a pas vraiment non plus de problèmes physiques, de violence physique envers les arbitres.
Et puis aussi, naturellement, je suppose, peut-être beaucoup de problèmes de bénévoles dans la plupart des clubs.
On a, comme tous les sports, et je pense que là, c'est récurrent dans tous les sports, des problèmes pour trouver des bénévoles, c'est sûr. Alors, pour des raisons qui sont, bien sûr, des raisons diverses et variées, dont peut-être une est que maintenant, les gens ont de plus en plus de loisirs, et donc, ils ont plus de temps à consacrer à leurs loisirs, et ils en profitent pour faire plus de choses, donc petit à petit, ils acceptent moins les contraintes. Peut-être aussi parce que on traite un peu les dirigeants comme des gens corvéables à merci, c'est-à-dire que on a le défaut, lorsque quelqu'un commence à être dirigeant, de vouloir lui dire à tout prix, là il y a les jeunes qui partent, tu dois y aller, alors que si on essayait un petit peu de les prendre, de les utiliser un peu moins, peut-être que là les gens seraient plus facilement des dirigeants.
Vous travaillez beaucoup avec les collèges, les établissements scolaires.
Il y a des opérations qui sont des opérations au niveau de la fédération qui ont été montées. On a eu notamment une opération où on a doté l'ensemble des collèges de France de DVD établis en liaison avec l'éducation nationale, des DVD qui permettent de montrer des séances qui sont des séances d'apprentissage du basket, de façon à ce que les enseignants puissent avoir toutes les bases nécessaires pour pouvoir apprendre le basket aux jeunes. On a des liaisons avec les écoles primaires aussi, de la même façon, où on a aussi fait des CD qui sont des CD de présentation, aussi bien depuis d'ailleurs même la maternelle jusqu'au plus haut niveau du primaire, et avec des séances adaptées à chaque niveau scolaire. Et puis on essaye d'aider les clubs à avoir des liaisons justement avec les écoles.
Vos principaux chevaux de bataille en tant que président ?
En tant que président des Yvelines, j'ai un cheval de bataille qui est... on en a deux, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on souhaite augmenter considérablement le nombre de clubs ayant une école mini-basket labellisée.
Mmh.
Donc là, on travaille beaucoup là-dessus. Je vous ai dit, on en a déjà quatre, on en a deux qui sont en train de bâtir le dossier, et on en a qui sont candidats potentiels à commencer les travaux pour bâtir aussi un dossier. Et notre deuxième point important, c'est le basket féminin, parce que on souhaite augmenter le pourcentage de nos licenciés féminines pour se rapprocher de la moyenne nationale, qui est quand même très loin pour nous, puisqu'on est à 28,6 ou 7, alors que la moyenne nationale est à 40%.
Donc on fait un appel, hein, à ces jeunes dames et demoiselles.
Voilà. Qu'elles n'hésitent pas à rejoindre les clubs, elles seront de toute façon très bien accueillies.
Mmh.
Et on fait pour cette opération je vous ai dit, la journée du basket féminin le 8 mai à Versailles. On a fait dernièrement, on a pris en charge l'organisation à Poissy des quarts et demi-finales de Coupe de France féminine. Donc là, on a pu avoir Bourges. Mmh. Qui était présent, donc c'était quand même un bon niveau de
club
basket
de
féminin,
hein,
je pense quand même.
Hein.
Il venait
ouais.
juste en plus de se qualifier pour les
ouais.
pour le Final Four européen. Hein.
Mmh.
Donc c'était quand même, il y avait Bourges, il y avait Mondeville, il y avait Châles-les-Eaux et Aix-en-Provence.
Mmh.
Donc c'était quand même une belle, un beau week-end de basket.
Est-ce qu'on peut gagner un peu d'argent dans le basket de haut niveau ? Arriver à un certain niveau, on arrive maintenant correctement à...
Arriver à un très haut niveau, on arrive à gagner de l'argent, pas autant qu'en foot,
ouais.
mais bon, mais arrivé à un certain niveau, il y a des gens qui se font une carrière. Bon.
Oui, pour l'équipe de France, il y a tout un travail qui est fait aussi pour bien amener ces jeunes vers au niveau.
Ah, on est au niveau fédéral, on a toute une organisation qui est une organisation de mise en place, je dirais, de centres de formation. Alors, on travaille un petit peu en doublon avec les clubs, puisque les clubs professionnels ont des centres de formation, mais la fédération elle-même, pour les meilleurs de ces centres de formation, a également ce qu'on appelle le centre fédéral, qui est à l'INSEP,
mmh.
et qui regroupe quatre équipes. Donc ces quatre équipes jouent dans les championnats, c'est-à-dire que les jeunes sont intégrés à l'INSEP, ont une scolarité qui est développée à l'INSEP, et jouent les juniors, par exemple, les moins de 18 ans, jouent le championnat de National Masculine 1, et ils sont intégrés systématiquement à ce championnat. Bon, ils peuvent pas descendre, ils peuvent pas monter, ils sont toujours, cette équipe participe toujours à ce championnat. Pour les féminines, c'est pareil, les moins de 18 jouent le championnat de NF1, et on a en plus une équipe de moins de 16 qui joue le championnat de France cadet, et une équipe en masculin, et en féminine, une équipe de moins de 16 qui joue le championnat de NF2.
Mmh.
Donc tout est organisé de façon à ce que nos équipes nationales puissent aussi s'entraîner, être prises en charge. Et en plus, on a un suivi qui est un suivi juridique à la sortie du centre fédéral pour les jeunes qui souhaitent aller vers le basket professionnel.
Ouais, ouais. Et puis avec un jeu de plus en plus rapide. Hein.
Ah, de plus en plus,
hein,
oui.
C'est comme dans tous les sports. Hein. Ce qui peut poser, ce qui explique aussi qu'il faille maintenant être trois arbitres. Quoi.
Ben, peut-être aussi, peut-être, oui. Maintenant, on va vers une progression du niveau de jeu, hein, mais dans tous les sports. Ça, c'est,
mm-hmm.
On sera peut-être obligé de s'arrêter un jour quand même.
Oui, les joueurs de mieux en mieux préparés, de mieux en mieux.
Mais le basket est un des sports aussi ouais. qui modifie le plus ses règlements. C'est-à-dire que
ouais.
dès qu'on constate qu'il y a quelque chose qui rend moins spectaculaire, ou qui donne plus d'avantages aux défenseurs qu'à l'attaquant,
mm-hmm.
ou à ce moment-là, ben, on va modifier les règlements. Les règlements sont modifiés tous les 4 ans et mm-hmm. on n'hésite pas. Alors, il y a eu l'apparition de la ligne à 3 points, de la zone réservée, il y a des tas de règlements comme ça, les 24 secondes, les
ouais.
pour tirer, qui au fur et à mesure ben, viennent alimenter les choses. Et puis, on peut très bien revenir en arrière, en mettre d'autres s'il y a besoin pour que ça devienne plus spectaculaire.
Mais c'est vrai que c'est un sport où il y a des renverses de situation, même jusqu'à la dernière seconde. Hein.
Phénoménal.
On peut avoir 7 points d'avance à...
Ah, on peut avoir 7 points d'avance à une minute de la fin et perdre 2-3.
Absolument. Il y a aussi une particularité dans votre sport, c'est que beaucoup de joueurs et joueuses sont dans l'encadrement des clubs au niveau des jeunes. Ça aussi, c'est spécifique au
basket. Oui, les gens s'investissent aussi, les joueurs s'investissent au niveau des jeunes aussi. Mais bon, c'est, je pense que ça se fait un peu dans tous les sports. Ça ne doit pas être spécifique au basket, je pense.
Oui, dans Rambouillet, beaucoup de joueurs, de joueuses, justement, sont aussi coach et responsables
d'équipe de jeunes. Oui, coach et entraîneur d'équipe de jeunes, oui. Mm-hmm. Mais je pense quand même que dans d'autres sports, ça existe aussi, ça. Mm-hmm. Ça, c'est la vie du club, quoi. C'est la vie associative, hein. Mm-hmm. On est quand même encore des associations, loi de 1901. On n'est pas des entreprises. Ça ne peut pas se gérer comme une entreprise, un club, je pense.
Avec les autres comités départementaux au niveau du basket, vous êtes en totale harmonie, il y a des préoccupations communes.
Autres comités d'autres sports
de basket.
Ah, bah, bien sûr, oui. On a même des réunions, par exemple, des présidents de comités départementaux de l'Île-de-France. Hein. Mm-hmm. Des réunions spécifiques où là, on essaye de voir, ben, chacun a des problèmes qui sont un peu identiques, et on essaye de voir comment on peut résoudre ces problèmes ensemble. Mm-hmm. On a une particularité, peut-être, sur l'Île-de-France, c'est que l'ensemble des 8 présidents s'entendent très bien et que tout le monde arrive à travailler ensemble. Ah, bah, c'est pas toujours le cas dans les ligues. Il y a des ligues où il y a des petits conflits entre les comités. Nous, on a toujours réussi à bien travailler ensemble. Donc, je pense que de ce côté, on n'a pas de soucis.
Ça se rapproche le mot de la fin. Merci, monsieur Jeannot. Vous avez un petit mot de fin à dire à ceux qui nous ont écouté ce matin concernant le basket. Venez rejoindre vos équipes féminines.
Ben, je pense que oui, il faut. Je pense que le basket est un sport qui est un sport qui vaut la peine d'être pratiqué. Donc, ils n'hésitent pas à aller voir dans les clubs pour le pratiquer. On peut le pratiquer à tous les niveaux, aussi bien au niveau loisir qu'au niveau compétition. Et puis, ben, si effectivement ils veulent se rendre compte, qu'ils viennent voir des matchs et voir un petit peu comment ça se passe.
Très bien, merci monsieur Jeannot d'avoir été donc notre invité dans cette matinée sportive bien remplie. On n'oubliera pas donc la rentrée des courses à l'hippodrome de Rambouillet, le trail d'Offargis et puis également le grand week-end de motocross. Et puis on va continuer avec le foot maintenant. Et rien que le foot, on va avoir une émission spéciale Paris Saint-Germain. Il y avait le PSG Basket il y a quelques années.
Le PBR maintenant.
Allez, on se retrouve pour très bon foot.